Que le nom du Seigneur soit béni. Nous allons donc ouvrir la parole de Dieu dans Hébreux au chapitre 11 où il nous est parlé du témoignage d'Abraham. Un homme qui est catalogué dans la parole de Dieu comme étant le père des croyants. Et il nous est dit certaines choses sur cet homme que nous avons intérêt à imiter. Car je pense que nous voulons, même si nous voulons connaître davantage Dieu, nous voulons aussi la bénédiction de Dieu. C'est un petit peu vrai ? Est-ce que vous êtes intéressé par la bénédiction du Seigneur ? Oui. Regardez dans Hébreux chapitre 11, il nous est parlé d'Abraham. On va lire à partir du verset 17 jusqu'au verset 19. C'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac lorsqu'il fut mis à l'épreuve et qu'il offrit son fils unique, lui qui avait reçu les promesses et à qui il avait été dit en Isaac, tu auras une postérité appelée de ton nom. Regardez bien la suite. Il pensait que Dieu est puissant. On pourrait presque mettre le titre de cette prédication. Il pensait que Dieu est puissant, même pour ressusciter les morts. Aussi, il retrouva son fils, ce qui est une préfiguration. Amen. Il pensait que Dieu est puissant. Vous savez, c'est une chose de chanter Dieu Tout-Puissant, de chanter des cantiques sur la puissance de Dieu. Vous êtes d'accord ? C'est extraordinaire. Comme les cantiques que nous avons chantés ce soir, ce sont de beaux cantiques qui nous permettent de comprendre ce que Dieu veut, ce que nous sommes, etc. Mais ce que nous pensons, vraiment. Et ce texte nous dit qu'il pensait que Dieu était puissant. Je le répète, c'est une chose de le dire, ça n'est une autre de le penser vraiment. Alors, cette histoire-là, c'est dans Genèse chapitre 22. Vous avez certainement lu le livre de la Genèse. Et il nous est dit que Abraham fut mis à l'épreuve. Aïe, aïe, aïe. Est-ce que vous aimez une prédication sur l'épreuve ? Tiens donc. Eh oui, c'est important. C'est important de comprendre ce que sont les épreuves. Abraham, Genèse 22, verset 1er. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve. L'épreuve. Alors, si vous étudiez la Bible, vous allez voir qu'il y a énormément d'enseignements sur l'épreuve. Dieu éprouve notre foi. Pourquoi Dieu éprouve-t-il notre foi ? Pourquoi traversons-nous des épreuves ? Eh bien, je vais vous dire, si notre foi n'était pas éprouvée, elle resterait intellectuelle, théorique, abstraite, tout cela serait beaucoup confus. Mais dès le moment où nous traversons des épreuves, nous sommes obligés de faire agir notre foi. Vous savez, Abraham est considéré dans toute la Bible comme étant le père des croyants. Et que nous avons beaucoup de choses à imiter. D'ailleurs, il nous est dit à plusieurs reprises d'imiter sa foi pour nous aussi obtenir les grâces et les bénédictions que Dieu veut nous donner. Donc la question que nous pouvons déjà commencer à nous poser ce soir, quelle est la foi qui m'habite ? Est-ce que c'est une foi vivante ? Est-ce qu'une foi qui agit ? Une foi qui obéit ? Ou est-ce que c'est une foi de croyance superficielle, religieuse ? Laissez-moi vous dire que beaucoup de chrétiens ont une foi d'apparence. Une foi qui ne leur sert strictement à rien, comme du temps de Noé, il est dit qu'on invoquait Dieu sur la terre. Vous avez vu combien ont été prêts lorsque Noé est entré dans l'arche ? Vous avez vu combien de chrétiens, combien d'hommes étaient là ? Et pourtant, croyez-moi, il y avait de la religion sur la terre. Nous devons comprendre que Dieu est tout-puissant, mais qu'en même temps, il agit par notre foi. Oui ou non ? Est-ce que c'est écrit ? Vous avez d'ailleurs remarqué, toutes les fois où Jésus a béni, guéri, restauré, libéré quelqu'un, il ne disait pas « ma puissance t'a guéri, ma puissance t'a sauvé », il disait à la personne « ta foi t'a guéri, ta foi t'a sauvé ». Donc nous voyons combien il est important que notre foi soit vivante. Et ce soir, c'est ce sur quoi j'aimerais vous amener, quelle est la foi que Dieu demande ? Ça pourrait être aussi un deuxième titre. Même fait, il pensait que Dieu est puissant, vous permet de comprendre quelle est la foi d'Abraham. Oui, nous marchons par la foi, nous devons vivre par la foi, nous devons comprendre les choses par la foi, parce que si nous avons une véritable foi, il est clair que nous ferons l'œuvre de Dieu, les œuvres de Dieu. Nous referons les premières œuvres, parce que des fois, nous tombons dans la routine et nous ne faisons pas les choses que Dieu voudrait que nous fassions. Abraham fut mis à l'épreuve. Alors, est-ce que c'était la première épreuve qu'il avait d'après vous ? Est-ce qu'il avait eu d'autres épreuves avant ? Est-ce qu'il en a eu d'autres après ? Mais bien sûr. Mais le fait que nous ayons des épreuves doit quand même aussi ne pas faire oublier que Dieu donne beaucoup de promesses. Si vous êtes dans la Genèse, on va lire juste deux ou trois versets. Mais le mieux, ça serait que vous lisiez tous les chapitres qui précèdent celui qu'on vient de lire. Par exemple, Genèse chapitre 12. Allez, on va lire quelques promesses. Parce que nous avons c'est sûr, besoin d'être éprouvé, mais nous avons aussi besoin de connaître les promesses et les paroles qui vont nous donner de l'assurance. Parce que ça serait grave de ne parler que de l'épreuve. Dieu va t'éprouver, Dieu va t'éprouver. Oui, Dieu va m'éprouver. Mais l'épreuve, je la traverserai différemment si ma vie est envahie de ses promesses. Regardez Genèse chapitre 12. L'Éternel dit à Abraham, « Va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai ton nom grand, tu seras une source de bénédiction. » Est-ce que c'est bien ça? Est-ce que vous aimeriez que Dieu vous dise « Tu seras une source de bénédiction ». Est-ce que c'est la volonté de Dieu qu'on soit une source de bénédiction? Ah oui. Dieu ne veut pas qu'on soit une source de problèmes. Il y en a. Il y a des chrétiens. Quand vous parlez avec eux, ce n'est pas une source de bénédiction. Il faut dire les choses comme elles sont. Ils vous fatiguent. Est-ce que ça peut arriver qu'un chrétien vous fatigue? Est-ce que vous connaissez des pasteurs qui vous fatiguent? Non, c'est bien. Mais est-ce que ça peut arriver que des gens ne soient pas des sources de bénédiction? Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas embrasés de ces choses. Ils ne connaissent pas les promesses de Dieu. Alors comment voulez-vous qu'ils soient des sources de bénédiction s'ils ne connaissent pas les promesses de Dieu? Le mieux, ça serait que vous lisez tous ces chapitres, jusqu'au chapitre 22. Regardez, Genèse 15, j'avais que l'embarras du choix. Genèse 15, verset 1er, « Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision. Et il lui dit, « Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier, ta récompense sera très grande. » Est-ce que c'est des promesses, ça? C'est pas beau? Est-ce que c'est important, quand même? Est-ce que vous aimeriez que Dieu vous dise, « Je suis ton bouclier, ta récompense sera très grande. » Est-ce que dans le Nouveau Testament, il est parlé de ces choses? Que Dieu sera notre bouclier et qu'on peut avoir une grande récompense. Et oui, c'est écrit. Genèse 17, verset 1er. Alors vous comprenez bien qu'on va pas lire tous les textes. Mais c'est pour vous dire qu'il y a des épreuves, mais il y a aussi des promesses. Genèse chapitre 17. Lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, « Je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant ma face et sois intègre. » On pourrait lire, qu'est-ce que j'avais mis comme référence? Le verset 9, Dieu dit à Abraham, « Toi, tu garderas mon alliance, toi et tes descendants après toi, selon leur génération. » Si vous voulez voir la quantité de promesses qui sont révélées dans la Bible que Dieu a faites à Abraham, lisez ce chapitre et vous verrez que nous avons besoin d'assurance. Et l'assurance, elle vient par le fait que nous croyons vraiment aux promesses. Oui, nous en avons besoin. C'est vrai qu'on a besoin de sévérité, on a besoin d'ordre, on a besoin de discipline, mais on a besoin de promesses. On a besoin de promesses et besoin d'assurance. Mais voilà, ce n'est pas parce que Dieu nous fait des promesses que nous n'aurons pas d'épreuves. Il ne faut pas tout mélanger. Il traverse une épreuve. Abraham fut mis à l'épreuve. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Pourquoi Dieu a-t-il mis Abraham à l'épreuve? Parce qu'on ne sait pas pourquoi. Bon, on sait à la fin que maintenant je sais que tu m'aimes, d'accord. Mais pourquoi avons-nous des épreuves? Qui n'a jamais eu d'épreuves? Est-ce que vous acceptez les épreuves? Est-ce que vous aurez des épreuves? Ouais. En tous les cas, les raisons ne sont pas données. Abraham ne cherche pas à savoir. On pourrait se demander, mais qu'est-ce que c'est cette affaire? Bon, c'était avant la loi, mais moi, la première fois que j'ai lu ça, j'ai dit, mais qu'est-ce que c'est ce travail? Dieu qui demande à un homme d'offrir son fils en sacrifice, je n'avais pas compris que c'était avant la loi, parce qu'à partir de la loi, il est absolument interdit de tuer quelqu'un. Donc, est-ce que Dieu pourrait demander une chose pareille aujourd'hui? Parce que j'ai entendu quelqu'un qui a dit, oui, si Dieu me demande d'offrir mon fils en sacrifice, je dis, mais vous rêvez? Vous voyez ce que je veux dire? C'est impossible. C'était avant la loi. Mais enfin, une chose quand même, c'est quand même paradoxal. Nous avons affaire à un Dieu plein d'amour qui nous demande de tuer quelqu'un. Vous avouez que ça fait quand même réfléchir et ça fait que l'on peut se poser des questions. Mais c'est l'image de l'épreuve. C'est nous avons affaire à un Dieu qui nous aime et en même temps on passe des trucs difficiles. Je ne comprends pas pourquoi je traverse ça. C'est vrai qu'il y a des gens qui ont traversé des épreuves différentes des nôtres, mais laissez-moi vous rassurer, Dieu sait exactement les épreuves que nous devons traverser. Je ne parle pas des épreuves qui sont liées à notre péché. Parce qu'il y a des gens qui se sont mis eux-mêmes dans l'embarras, eux-mêmes, parce qu'ils ont toléré le péché dans leur vie. Et croyez-moi, j'ai suffisamment suivi de chrétiens qui ont dit « Oui, je traverse cette épreuve. » J'ai dit « Non, ça, ce n'est pas une épreuve. Ça, c'est la conséquence de votre péché. péché. Un gars qui prend la voiture et qui roule à 150, quand tout d'un coup il y a écrit « Attention, virage à droite, roule à 60 », que je ne comprends pas, maintenant je suis paralysé dans mon lit, je ne comprends pas l'épreuve. Je dis « Oui, moi je comprends que quand même t'es malade. Il faut être malade pour prendre un virage à 160 alors qu'il y a écrit 30. Oui ou non ? Oui, là, c'est pas une épreuve. Ça, c'est les conséquences du péché. Alors, si Dieu nous expliquait les épreuves, ça ne serait plus des épreuves. Quelqu'un qui est au chômage depuis 3 mois. Si Dieu lui disait, écoute, voilà, tu trouveras du travail le 15 août, est-ce que c'est une épreuve ? C'est plus une épreuve. Voilà, pour qu'une épreuve soit une bonne épreuve, il faut qu'on soit dans le brouillard le plus total possible. C'est comme ça qu'on est vraiment dans l'épreuve. Mais c'est ça l'épreuve. Parce que si, parle-moi Seigneur. Oh, si un ange venait et me révélait la signification de cette épreuve, je serais plus fort. Moi, je peux vous dire que je ne suis pas sûr. Je pense que si un ange venait me révéler certaines choses, je serais peut-être beaucoup plus orgueilleux, parce que je dirais dimanche matin à mes stagiaires, vous ne savez pas, moi, dans la nuit de ce vendredi à samedi, il y a un ange qui m'a parlé à moi. Vous voyez, je ne suis pas du tout sûr que ces choses-là nous maintiendraient dans l'humilité. Une bonne épreuve, pour que ça soit une vraie épreuve, il faut qu'on ne sache pas comment ça va se terminer. Joseph a été dans l'épreuve pendant 13 ans. Vous ne croyez pas que Dieu aurait pu lui dire, écoute Joseph, t'inquiète pas, ça ne va durer que 13 ans, hein, mais au bout de 13 ans, tu seras gouverneur d'Égypte. Est-ce que Dieu aurait pu lui dire ? Ouais, mais ce n'était plus une épreuve. Que vous le vouliez ou non, c'était plus une épreuve. Alors qu'est-ce que c'est cette affaire d'épreuve ? Parce qu'il faut les comprendre, les épreuves. Moi, j'ai fait des études, je ne sais combien d'études j'ai fait sur les épreuves. Mais plus j'étudie sur l'épreuve, plus je me rends compte qu'on a besoin d'y réfléchir parce que c'est écrit dans la parole de Dieu. Qu'est-ce que veut nous enseigner cette histoire ? Si vous la lisez, si vous la relisez, eh bien, qu'il faut se soumettre à la parole, quelle que soit l'épreuve. Abraham, il a obéi. Pourtant, c'était quelque chose de terrible, ce que Dieu va lui demander. Que la soumission à la parole de Dieu, c'est quelque chose de très sérieux. Beaucoup de gens, dès qu'ils ont une épreuve, se permettent, comme s'ils avaient l'autorisation de ne pas obéir à Dieu, ils ont comme une autorisation, ils se donnent l'autorisation de « Ah, mais moi, je traverse cette épreuve, je ne l'accepte pas, je fais ce que je veux, ça ne me plaît pas. » Mais justement, un des buts de l'épreuve, c'est de nous apprendre à nous soumettre à la parole, à nous soumettre à la volonté de Dieu sans discuter. Ça ne veut pas dire que Dieu ne veut pas qu'on soit intelligent, mais vous pouvez faire confiance en Dieu, quelle que soit l'épreuve que vous traversez. Plus nous discutons, il y a des gens qui discutent, oui, mais je ne comprends pas, et ceci, et cela. Eh bien écoutez, quand même, ça fait 30 ans que je suis pasteur, et je peux vous dire que les gens qui discutent trop, je ne parle pas des gens qui réfléchissent, je parle des gens qui justifient, etc., leur désobéissance. Les gens qui discutent, eh bien, ils s'éloignent de la foi. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Vous savez, il y a des fêtes, quand on discute et tout le temps en train de discuter, on finit par s'éloigner de la véritable foi. Abraham, il se soumet. Est-ce que nous sommes là ce soir ? Est-ce que nous disons, oui, je me soumets, je traverse cette épreuve, je ne comprends pas, mais je me soumets. Vous savez, il y a un verset que j'ai noté tout à l'heure dans les proverbes, la résistance des stupides les tue. La stupidité, c'est de se braquer et dire non, je n'accepte pas. Vous savez, c'est Dieu qui décide. C'est, notre vie appartient à Dieu. Même quand on n'est pas chrétien, qu'on le veuille ou non, notre vie, elle est dirigée. Dieu peut la diriger comme il veut, oui ou non. C'est Dieu qui décide de l'épreuve que je dois traverser. Dieu sait très bien si je dois traverser telle ou telle épreuve. Vous croyez que Dieu se moque avec nous ? Vous croyez que quand on devient ses enfants, vous croyez que Dieu se moque avec nous ? Moi, je crois que non. Je crois que Dieu sait exactement les épreuves qu'il faut que nous traversions. En tous les cas, une chose est sûre, il faut que il faut que ça soit vécu dans un bon état d'esprit. Dieu dit ce verset, je voulais vous le lire avec vous. Pourquoi on va le lire ? C'est dans Proverbe 23-26. C'est un texte qui nous montre l'état d'esprit dans lequel nous devons nous approcher de Dieu. Parce que vous savez faire les choses pour les faire les choses par contrainte, faire les choses à contre-cœur, c'est pas comme ça que ça va marcher. Dieu dit, Proverbe 23-26, « Mon fils, donne-moi ton cœur, et que tes yeux se plaisent dans mes voies. » Voilà, c'est une invitation, elle est importante. « Mon fils, donne-moi ton cœur. » Voilà ce que Dieu nous demande, pour que tes yeux se plaisent dans mes voies. On peut être dans l'épreuve et dire, mais j'accepte ce temps, ça ne me plaît pas trop, mais j'accepte ce temps d'épreuve, je l'accepte Seigneur. Tu le permets, je l'accepte. Que tes yeux se plaisent dans mes voies. Donner son cœur. Vous voyez, on doit marcher par la foi, mais la foi ne doit pas faire de nous des robots. La foi doit nous amener à faire les choses de tout notre cœur pour marcher vraiment dans ses voies. Est-ce que vous avez envie de marcher dans les voies de Dieu, ou est-ce que vous voulez juste venir à l'église le dimanche matin? Parce que aller à l'église à une réunion, c'est une chose. Il y a des gens qui sont religieux pendant la réunion. Après, ils sont exactement comme des païens. Dieu veut notre cœur, pas des émotions ponctuelles, passagères, dominicales. Le dimanche matin, je suis chrétien, je vais à l'église. Il y a beaucoup de gens comme ça. Ça fait mal au cœur de le dire, mais même parmi nous, il y a des gens qui sont des religieux, des gens qui croient en Dieu le dimanche matin de 9h30 à 11h30, puis après chacun chez soi. Dieu veut que nous lui donnions notre cœur. Il y a un texte qu'on va lire qui explique bien que quand on donne à Dieu notre cœur, c'est dans les psaumes. Dans le psaume 84, j'aime beaucoup ce psaume, parce que justement il parle des vallées difficiles, de la vallée de Baca, c'est-à-dire la vallée des pleurs, la vallée de l'épreuve. Dans le psaume 84, psaume que je vous invite à méditer pour votre culte personnel, pour que vous compreniez la bénédiction qu'il y a de se confier en Dieu dans les pleurs. Psaume 84, verset 6. « Heureux ceux qui placent en toi leur appui, ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracé. Lorsqu'il traverse la vallée de Baca, il la transforme en un lieu plein de sources et la pluie la couvre aussi de bénédictions. » Est-ce que vous vous rendez compte de ce qu'on lit? Ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Ça vous intéresse d'avoir cette assurance que vous avez un chemin qui est déjà tout tracé? Franchement, est-ce que ce n'est pas rassurant? Pour ceux qui se confient en Dieu. Il n'est pas dit pour ceux qui vont à l'église. Il est dit pour ceux qui se confient en Dieu. J'ai expliqué, je ne sais combien de fois, qu'il y avait une grande différence entre prier, lire, aller à l'église, et puis vraiment se confier en Dieu. Il faut les deux. Mais on peut tout faire sans se confier en Dieu. Vous êtes d'accord avec moi? On peut lire la Bible pour lire la Bible. Mais on peut lire la Bible pour se confier en Dieu. Tiens, je crois vraiment que tu as des chemins tout tracés. Quelle grâce de savoir que Dieu a des chemins tout tracés. C'est cette foi qu'avait Abraham. Il avait une foi intelligente, une foi bénie. Il se soumettait à Dieu. Il sait que Dieu l'aime. Est-ce que vous savez que Dieu vous aime? Ça aussi. Je ne comprends pas. On dit que Dieu nous aime et je suis en train de traverser ça. Si Dieu m'aimait, je ne traverserais pas cette épreuve. Est-ce que vous pensez que Dieu vous aime, quoi que ce soit qui peut vous arriver? Est-ce que Dieu aimait Job? Parce que Job, quand même, il a chargé. Il a perdu tous ses enfants, quand même. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, il a perdu tout son argent, tous ses enfants, toute sa richesse, tout perdu. Est-ce que Dieu aimait Job? Moi, je crois que oui. Je crois que Dieu, il sait ce qu'il fait. Il ne se trompe jamais. C'est pour ça qu'il faut garder cette foi simple. Seigneur, je ne comprends pas, mais tu es là. Et l'exemple d'Abraham, vous le lirez, est vraiment cet homme qui croit dans l'amour de Dieu. Même si Dieu demande quelque chose de difficile. Comment l'amour peut demander la mort? Si on réfléchit, voyez. Et la foi doit dépasser ce qui nous semble paradoxal. Peut-être, tiens, tu permets ça, mais comment ça se fait? On m'a dit que tu étais un Dieu d'amour, et je traverse cette épreuve. C'est peut-être pas, Dieu peut-être pas demander la mort, mais c'est peut-être une mort à vous-même. Parce que la Bible dit, voilà, justement, comment Dieu m'aime? Qu'est-ce qu'il dit si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même? De mourir à moi-même? Parce que la Bible parle de la mort à soi-même. Mais qu'est-ce que c'est cette affaire? Dieu m'aime, et en même temps, il me demande de renoncer à ma propre vie. Mais qu'est-ce que c'est ce travail? Vous voyez, ça se rejoint un petit peu avec le fait que Dieu ait demandé à Abraham que son fils soit sacrifié. Comment tu m'aimes et tu me demandes de sacrifier ma vie pour te servir? Mais c'est pour mon bien ou c'est pour mon mal? C'est une question qu'on peut poser. Pourquoi Dieu me demande mon cœur? Pourquoi Dieu me demande toute ma vie? Est-ce que je vais gagner ou est-ce que je vais perdre? D'après vous, si Dieu vous demande de renoncer à vous-même, c'est pour que vous perdiez ou pour que vous gagniez? Vous voyez, mais il y a des gens, ils n'ont pas cette foi simple. Ah non, moi je fais ce que je veux, attends, moi j'ai ma liberté. Écoutez, plus on dépend de Dieu, plus on est heureux. Si Abraham est devenu le père des croyants, c'est écrit plusieurs fois, Jésus le dit, laissez-moi, c'est qu'il y a beaucoup de choses à apprendre de lui. C'est pour ça que c'est important d'apprendre à travers des épreuves des autres. Apprendre à vivre par la foi. Apprendre à vivre dans la confiance. Oui, tu m'aimes, mais tu me demandes de renoncer à moi-même. C'est un peu exactement la même image. La foi croit des choses, même si elles semblent s'opposer. C'est peut-être compliqué ce que je vous dis, mais il y a des choses dans la Bible, elles semblent s'opposer. Vous voyez, comme l'amour de Dieu et l'amour à soi-même. Alors on se dit, mais non, mais ça, ça ne va pas ensemble. Et pourtant, je dois les accepter. Tu m'aimes et tu me demandes de porter ma croix. Est-ce que c'est écrit? Si quelqu'un veut me suivre, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Dieu vous aime. Ah bon? Vous voyez, on peut dire, comment vous avez dit, Dieu vous aime et en même temps vous dites qu'il faut se charger chaque jour de la croix. Vous pouvez bien m'expliquer ça? Ben oui, parce que suivre le Seigneur, ça implique des sacrifices, ça implique le fait qu'on dit non, ça, je ne le tolérerai pas. Mais il faut bien comprendre que tout ce que Dieu nous demande, c'est pour notre bien. Quelle que soit l'épreuve, Abraham, vous connaissez cette affaire, il va marcher pendant 3 jours. C'est-à-dire que quand Dieu lui dit, voilà, tu vas m'offrir ton fils en sacrifice, le lieu est à 3 jours de marche. Et il le fait de suite, bien sûr, il va obéir de suite, mais 3 jours, c'est long. Si on vous dit, bon, tu fais ça, tu le fais de suite. Bon, mais si on vous donne 3 jours et 3 nuits, ça vous laisse le temps de réfléchir et de revenir sur votre décision et de dire, non, attends, je ne vais pas faire un truc pareil. Vous voyez, il y a 3 jours, et puis en plus, le fils, vous avez gardé la page? Le fils, il va commencer à lui poser des questions, parce qu'il a une 15aine d'années minimum. Au verset 7, alors Isaac, parlant à Abraham, son père, dit, mon père, il répondit, me voici, mon fils. Isaac reprit, voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'Holocauste? Le fils, il commence à se poser des questions lui aussi. Vous voyez, bon, est-ce qu'il y avait de quoi se poser des questions? Bien sûr. Qu'est-ce que vous auriez répondu, vous? Voilà, parce que bon, vous connaissez la suite, mais qu'est-ce que vous auriez répondu? Tu verras bien, dit Jérémie. Oui, bon. Est-ce qu'il pouvait dire, c'est toi, l'agneau? Eh ouais, c'est toi. Est-ce qu'il pouvait le dire? Est-ce qu'il pouvait le dire? Non. Est-ce qu'il pouvait mentir? Elle non plus. Et il a dit, Dieu pourvoira. Voyez, si cet homme est un homme de foi, si nous voulons imiter la foi de cet homme, puisque cela nous est conseillé, nous devrions, dans toutes les épreuves, pouvoir dire, Dieu pourvoira. Vous comprenez? C'est le sens de ces épreuves qui nous sont relatées dans la parole de Dieu. N'oublions pas que toutes ces choses ont été écrites pour notre instruction. Abraham ne savait pas comment les choses allaient se dérouler. Bien sûr que nous, on le sait. Mais il avait une véritable foi. Pendant 3 jours, la foi de cet homme est vraiment, vraiment éprouvée. Mais il n'est pas là en train de mentir. Hier, j'ai une sœur qui m'a téléphoné, pas d'ici. Une sœur d'une autre église. Et qui me dit, voilà, moi j'ai une sœur chrétienne. Elle ment pour se tirer d'affaire. Eh bien, vous voyez, il ne faut pas qu'elle s'attende à la bénédiction. Quelqu'un qui ment, c'est quelqu'un qui veut faire la volonté de Satan. Sa propre volonté. Il faut dire les choses comme elles sont. Il n'a pas menti, il a juste dit, Dieu pourvoira. Est-ce que vous croyez que Dieu pourvoira dans les épreuves que vous traversez? Vous en traverserez les épreuves, d'autres, en fonction de ce que Dieu a préparé. Dans l'épreuve, ah mais je ne comprends pas, j'en ai marre, je ne sais pas, j'abandonne, je ne vais plus à l'église. Vous voyez, mais c'est exactement ce que le diable veut, qu'on s'éloigne du chemin du Seigneur. Abraham, il est dans l'épreuve, mais sa réponse à son fils nous prouve qu'il ne s'est pas laissé ébranler par l'épreuve. Dieu se pourvoira. Il pensait, on a lu, que Dieu est puissant, même pour ressusciter les morts. Il avait confiance. Ce n'est pas qu'il priait. Bien sûr qu'il priait. Ce n'est pas qu'il lisait le livre de l'Apocalypse tous les matins, tous les soirs. Abraham avait confiance en Dieu. Il pensait que Dieu est puissant. Je le répète, ce que j'ai dit en introduction, que pensez-vous des promesses de Dieu? Que pensez-vous de ses paroles? Que pensez-vous des prophéties? La vraie foi, elle élimine les craintes, elle élimine les doutes, elle élimine même certaines questions. On peut poser des questions. Quand vous lisez le livre de Job, il y a des centaines de questions dans le livre de Job. Ce n'est pas parce que Job posait des questions qu'il remettait tout en question. Il posait des questions parce qu'on peut poser des questions. Mais il y a des questions qui révèlent un véritable manque de foi. La foi Elle élimine les craintes, elle élimine l'incrédulité, le doute. La foi est accompagnée d'humilité. Je préfère me taire. Plutôt que de dire des bêtises, dans cette épreuve, je préfère me taire. Je ne veux pas calculer par mes propres forces. Je veux faire confiance. Il pensait que Dieu est puissant. Et je vous repose la question. Qu'est-ce que vous pensez vraiment ? Je crois que si vous êtes là, c'est parce que vous pensez que Dieu est puissant. Mais vous ne vous rendez pas compte de la bénédiction qui est rattachée à ces quelques mots. Il pensait que Dieu est puissant. Tout à l'heure, vous allez rentrer à la maison, vous allez vous endormir. Quand vous vous couchez, vous vous endormez de suite ou vous réfléchissez un peu ? Est-ce que quand vous vous couchez, tac, vous dormez de suite ? Ou est-ce que vous vous réfléchissez ? Vous réfléchissez quand même un petit peu. Oui, la plupart du temps. On réfléchit. Eh bien, vous savez, quand on est là sur son lit et qu'on commence à dire « Seigneur, je pense que tu es puissant », il n'y a que Dieu qui vous entend. Mais Dieu le voit. Et ça va déterminer l'action du Seigneur. Il ne doutait pas de son amour. Pourtant, je vous dis, il demande quelque chose qui paraît être contraire à l'amour de Dieu. En tous les cas, il ne doute pas de son amour et surtout, il ne doute pas de sa puissance. Quelle bénédiction! Oui, quand Dieu nous demande, par exemple, de renoncer, ce n'est pas pour que nous perdions, c'est pour que nous gagnions. Et l'ennemi fait tout pour essayer de nous faire croire que chaque fois que Dieu nous demande de renoncer, de nous consacrer, etc., de mourir, entre guillemets, ça va être pour une perte. Mais non, c'est exactement l'inverse. Chaque fois que Dieu nous demande de renoncer à nous-mêmes, d'utiliser notre vie, c'est pas pour qu'on perde, c'est pour que l'on gagne. Et rappelons-nous d'une chose, que Dieu ne prend pas Isaac. Dieu le lui demande. Ne vous inquiétez pas, Dieu ne vous obligera jamais. Une fois, j'ai arrêté quelqu'un dans l'église. Je me suis levé après sa prière pour lui dire, écoutez cette prière, Dieu ne l'exaucera pas. Seigneur, oblige-moi à faire ta volonté. Alors je me suis levé, c'était mardi soir, j'étais voir la personne, j'ai dit, écoutez, je suis désolé, mais Dieu ne vous obligera jamais. Est-ce que Dieu a pris à Isaac, donne-moi Isaac, donne-moi-le, si je le prends, il est à moi. Non, Dieu l'a demandé. Est-ce que vous comprenez ? Il y a des situations, Dieu ne vous forcera jamais. Personne ne vous a forcé à venir ce soir, non ? Quand on rentre dans la manipulation, le conditionnement, l'obligation, là on n'est plus dans la grâce de Dieu. Ça c'est sûr et certain. Si on se soumet par contrainte, il y a quelque chose qui ne va pas. La foi, la véritable foi, c'est quelque chose qui est fait par amour. Et Dieu sait quand est-ce qu'il doit nous arrêter. Au dernier moment, vous connaissez l'affaire, vous avez vu, on peut lire la fin, parce que la fin c'est quand même... Ouais. Regardez, lorsqu'ils furent arrivés au verset 9, au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham y éleva un autel et rangea le bois, il lia son fils Isaac et le mit sur l'autel, par-dessus le bois. Puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Alors, l'ange de l'Éternel l'appela des cieux et dit, Abraham, Abraham, il répondit, me voici, n'avance pas la main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je savais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes. Et Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Abraham donna à ce lieu le nom de Yahvé Jiré. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui, à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Vous avez vu ? Abraham a été arrêté au dernier moment. Croyez-moi, Dieu sait exactement quand est-ce qu'il doit intervenir. Dans n'importe quelle épreuve, Dieu sait exactement quand est-ce qu'il doit intervenir. Vous savez, Dieu, il vous aime. Vous ne croyez pas que Dieu il se moque de vous. Ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas compris. On parle des fois, vous voyez, de la croix, la grâce coule. Mais est-ce que vraiment, vraiment, on croit que Dieu sait exactement à la seconde près où doit terminer une épreuve ? Oui, à la seconde près, je vous jure. C'est une image. Mais quand même, là, c'était quand même important. Là, c'était une question de seconde. Mais moi, je crois que Dieu sait exactement quand une épreuve doit s'achever. En tous les cas, il a été jusqu'au bout. Il a obéi jusqu'au bout. Cette foi, c'est une foi qui est éprouvée, c'est une foi qui est bénie. Et regardez la conclusion. Quoique après, il y aura d'autres épreuves. Mais regardez quand même, moi c'est un texte qui m'a fait frémir, tellement il est beau. Le verset 17, regardez, il y a l'épreuve, d'accord. Il y a la bénédiction, d'accord. Mais regardez où Abraham en arrive. Regardez où il en est arrivé. Genèse 22, 17, je te bénirai et je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Regardez bien le verset 18. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité parce que tu as obéi à ma voix. Souvent, si tu m'obéis, je ferai. Vous connaissez très, 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 très souvent le mot « si » est utilisé dans la « si mon peuple s'humilie, si vous demeurez en moi ». Vous savez le nombre de fois où quand les promesses sont présentées, elles sont présentées au conditionnel. Mais là, on n'est pas dans le conditionnel. Là, on est dans la bénédiction totale. Parce que tu as obéi, je vais te bénir. Et voyez, mes frères et sœurs, l'épreuve doit nous amener, non pas « Ah, si vous cherchez d'abord le royaume de Dieu, si vous obéissez ». Non, là, on est dans la véritable bénédiction. Parce que tu obéis, je te bénirai. Je le jure par moi-même, dit l'Éternel. C'est une parole qu'on a presque, nous les pasteurs, presque, on a presque honte de la présenter tellement elle est forte. Est-ce que vous vous rendez compte? Je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as obéi, je te bénirai. Et là, nous voyons une foi qui est déterminée. Et cette foi déterminée, Dieu veut que nous l'ayons. Voilà, je ne discute pas. Seigneur, tu me réponds, c'est bien. Dans cette épreuve, tu me parles, c'est bien. Tu ne me parles pas, je te fais confiance. Est-ce qu'on peut en arriver là? C'est une bénédiction quand quelqu'un dit dans l'épreuve, « Ah, mais moi j'ai demandé à Dieu qu'il me dise pourquoi. » Mais de toute façon, même s'il ne me donne pas la réponse, ça m'est égal. Je lui fais confiance. Croyez-moi, ceux qui parlent comme ça, ils ne le regretteront pas. C'est ce qui s'est passé dans l'affaire d'Abraham, c'est ce qui s'est passé dans la vie de Joseph. « Je te bénirai parce que tu as obéi. » Est-ce que c'est ça qui nous intéresse? Ah oui? Eh bien, appliquons-nous, mais faisons-le de bon cœur. Ne le faisons pas par contrainte. Ah, pourquoi tu vas à l'église? Ah, je vais à l'église parce que... Eh bien, on m'a dit qu'il fallait aller à l'église tous les dimanches, alors je vais à l'église. Oui, bon, c'est pas bien que vous veniez. Franchement, ça sert à rien. Je me souviens des derniers enterrements que j'ai fait, le fils du défunt, il est venu me trouver, et il me dit, voilà, monsieur Gaud, j'ai promis à mon père, avant de mourir, d'aller à l'église tous les dimanches. Je lui dis, mais qu'est-ce que vous avez fait? D'ailleurs, il ne vient pas. Il n'est jamais venu. Mais je dis, mais tout ça, c'est sentimental. Vous allez vous forcer à venir à l'église pour faire plaisir à votre père qui est mort. Je dis, mais on ne vient pas à l'église pour faire plaisir à son père qui vient de mourir. On vient à l'église parce qu'on aime Dieu, un point, c'est tout. Je dis, mais annuler ce vœu, je dis, mais c'est stupide. Vous voyez, la résistance des stupides, c'est stupide. Est-ce que vous comprenez? Mais c'est vrai, j'étais obligé de le lui dire. On va pas à l'église par contrainte, par obligation, parce qu'on a fait un vœu. On va à l'église parce qu'on aime Dieu de tout son cœur. À l'église et en dehors de l'église, ça détermine une véritable foi. En tous les cas, quel encouragement. Je ne sais pas pour vous, mais moi quand je préparais cette prédication ce matin, je me disais, mais quelle bénédiction d'avoir le témoignage de la foi d'Abraham. Dieu nous fait des promesses. Oui, il fait des promesses. Il ne fait pas des promesses pour faire des promesses, parce qu'il a besoin de faire des promesses. Chacune de ces promesses, c'est pour vous, c'est pour moi. Et il faut les saisir, ces promesses. Quand vous lisez quelque chose, il faut les saisir. Vous savez, le diable, il fera tout pour que vous les oubliez, les promesses. Il y a des chrétiens, moi je leur répète des fois, une promesse, « Ah oui, c'est vrai, j'avais oublié. Ah, je n'avais pas lu ça. Oh, je l'ai lu, mais je l'ai compris. » Bon, est-ce que ça peut arriver d'oublier? Ça peut arriver d'oublier? Oui, ça peut arriver. Mais oublier tout, c'est quand même dommage. On peut se détourner des promesses. Est-ce que Ésaü, tiens, on parle d'un homme bien là, mais parlons d'un homme bien moins bien. Ésaü, est-ce qu'il ne s'est pas détourné des promesses de Dieu? Si. Et il est passé à côté. Et oui, et pourtant c'est le petit-fils d'Abraham. Et bien il est passé à côté des promesses de Dieu parce qu'il n'a pas écouté ce que Dieu avait à lui dire. On peut passer à côté. Ce n'est pas parce qu'on est chrétien que tout va glisser comme ça. On peut passer véritablement à côté. Par contre, l'obéissance, on vient de le voir ce soir, l'obéissance fera que les promesses de Dieu se réaliseront. Donc, ça vaut la peine d'obéir à Dieu de tout son cœur et surtout de veiller sur ses pensées. Il pensait que Dieu est puissant. Oui, le Dieu est puissant. Je le rappelle, Dieu veut que nous marchions par la foi. Il vous sera fait selon votre foi. Rappelez-vous ce que Jésus a dit, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, rien ne vous serait impossible. On a besoin de comprendre que notre foi, c'est notre part. On a besoin de penser que Dieu est puissant. Et si Dieu nous rappelle ce soir qu'il est puissant, ce n'est pas parce qu'il fait un complexe d'infériorité. Est-ce que Dieu a besoin de dire qu'il est tout puissant? Est-ce que Dieu a besoin pour lui de le dire? Mais non, Dieu le dit pour nous. Nous, on a besoin de savoir que Dieu est tout puissant. On a besoin de penser que Dieu est puissant.
Et si nous conjuguons cette grâce à cette vie de foi, la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi, eh bien, nous triompherons. Qui veut triompher dans la vie? Qui c'est qui veut triompher? Il pensait que Dieu est puissant. Voilà. Si je vous dis, Dieu est puissant. Si on chante tout à l'heure, Dieu est puissant. Vous allez le chanter. Mais est-ce que vous le pensez vraiment? Vraiment? Mais c'est même pas la peine. Je sais que Dieu est puissant. Et je crois que cette grande bénédiction a commencé dans la pensée d'Abraham, parce qu'il croyait vraiment que ce que Dieu dit est vrai. Alors, que Dieu nous donne et nous rappelle constamment ses promesses, afin que nous ayons de l'assurance, et que Dieu nous accorde la grâce d'obéir dans l'épreuve, afin que nous voyions ses bénédictions s'accomplir. Et on peut terminer en priant, si vous le voulez. Seigneur, nous croyons que la foi que tu nous demandes, c'est cette foi vivante, pleine d'obéissance, pleine de soumission, pleine de confiance, à savoir que vraiment, tu es le Tout-Puissant. Tu sais quand est-ce que tu nous dois nous rassurer, tu sais quand est-ce que tu dois intervenir, tu sais les épreuves par lesquelles nous devons passer. Oui Seigneur, ce soir, dans ce lieu, nous choisissons de te faire entièrement confiance. Et comme Abraham, nous voulons penser que tu es puissant. Nous voulons penser que tu es plein de miséricorde. Nous voulons penser que tu es vraiment un Dieu qui nous aime et qui peut nous demander des choses qui ne seront de toute façon que pour notre bien. Seigneur, merci pour cette soirée. Oui, comme nous l'avons chanté, nous croyons que de la croix, la grâce coule, que de ton œuvre, la grâce coule. Merci Jésus pour ton œuvre au calvaire qui nous permet de vivre ces choses et de les réaliser. Que ton nom soit béni. Merci Seigneur Jésus. Amen.